Très bien. Donc, Pierre Jaïs est professeur à l'hôpital cardiologique de Pessac, où il collabore avec le professeur Michel Essaguerre dans le département de rythmologie, de stimulation cardiaque. Il co-dirige l'IHU Lyrique et l'équipe EX Musique, qui visent tous les deux à améliorer les connaissances et traitements des dysfonctions électriques du cœur, avec une focalisation particulière sur l'imagerie pour musique. Alors, Pierre Jaïs s'est vu attribuer de très nombreux prix. Notamment, il a reçu le prix Lamonica de l'Académie des sciences en 2011. Il travaille actuellement sur l'ablation des arythmies atriales et ventriculaires, avec une emphase particulière sur l'intégration par imagerie avancée et modélisation pour guider les procédures d'ablation.
Merci beaucoup, Nicolas. Messieurs, dames, chers internautes, je voudrais d'abord vous dire que je suis très sensible au privilège qu'il m'est fait de pouvoir vous faire part de nos travaux au Collège de France. Et je voudrais remercier Nicolas de son invitation et puis également de la collaboration que nous avons depuis plusieurs années maintenant, qui s'est avérée extrêmement enrichissante pour nous tous. Le cœur, vous l'avez vu dans l'exposé de Nicolas, est un organe électrique avant d'être un organe contractile. Et cette activité électrique va précéder la contraction. Elle est le fait de canaux ioniques qui sont disposés dans la membrane de la cellule cardiaque et qui ont pour fonction de pouvoir créer ces phénomènes de changement de polarité de la cellule par rapport à son milieu externe. Et cette activité électrique, elle est accessible à une investigation invasive, c'est-à-dire que l'on peut introduire des cathéters, en général par les vaisseaux fémoraux, c'est la voie d'accès la plus facile, jusque dans le cœur, sous la surveillance d'un système rayon X, qui a un certain nombre d'inconvénients, mais qui est également très robuste et qui permet d'observer la position de ces cathéters à travers la silhouette cardiaque. À chaque endroit où ce cathéter va aller dans le cœur, il va pouvoir enregistrer l'activité électrique correspondante à ce site. Et c'est ainsi que les électriciens du cœur que nous sommes travaillons de manière quotidienne pour repérer les zones anormales qui sont responsables des arythmies que peuvent développer les patients qui nous sont confiés. Différents types d'outils ont été développés. Ça, c'est un cathéter d'ablation. Il a donc une extrémité distale qui est plus large pour pouvoir envoyer un courant de radiofréquence qui va échauffer le tissu. Et lorsqu'on atteint 50 degrés à peu près, l'échauffement produit l'éclatement de la cellule. Et la zone ainsi traitée et lésée, qui est petite, hein, ça fait 5 mm de diamètre, va voir la disparition des cellules musculaires qui vont être remplacées par un processus de cicatrice fibreuse qui ne conduit plus l'électricité, et c'est l'effet que l'on cherche pour traiter les patients. D'autres cathéters ont pour simple but d'enregistrer l'activité électrique et vous voyez qu'il existe une grande variété de modèles avec différentes tailles d'électrodes, différents espaces entre les électrodes. Tout ça a un impact sur les signaux électriques que l'on peut enregistrer. Lorsque ces cathéters sont placés à des endroits remarquables, ils enregistrent des activités remarquables, telles qu'ici l'activité du faisceau de His dont Nicolas a parlé, entre l'oreillette et le ventricule, à ce niveau-là, dans le système de conduction, à la croix du cœur. C'est un peu au-dessus de la croix du cœur, peu importe. On pourra enregistrer donc l'activité spécifique du tissu de conduction. On peut l'enregistrer plus bas également. Mais donc le principe, c'est que ces outils nous permettent d'avoir une idée de ce qu'il se passe électriquement dans le cœur. Deux mécanismes essentiels pour les arythmies cardiaques. Le foyer, qui est montré ici sur une carte d'activation, c'est une oreillette droite. On a un foyer ici, et le front d'activation se propage ensuite de part et d'autre de l'anneau tricuspide pour remonter vers la veine cave inférieure. Donc c'est le mécanisme de foyer. C'est curieusement pas le plus fréquent, c'est le plus intuitif. C'est une zone malade qui va décharger. Le plus fréquent, c'est celui-ci. On a des cicatrices qui permettent finalement à l'activité électrique d'en faire le tour parce que la conduction est ralentie. Et ce mécanisme-là est en fait plus fréquent que le précédent. Et ces zones de conduction lente, on le voit d'emblée, sont remarquables parce qu'en général, elles sont associées à des cicatrices. Et ça, c'est une caractéristique intéressante qu'on va mettre à profit lorsqu'on va utiliser de l'imagerie pour essayer de prédire les zones importantes pour traiter les patients. Une multitude de cathéters ont été développés. Ça a été un effort considérable de l'industrie et de la recherche. Vous en voyez ici qui sont sous forme de ballons. Alors ça, c'est un ballon de cryothérapie, donc moins 60 à moins 80 degrés. Ça, c'est un ballon laser. La forme en ballon est intéressante lorsqu'on veut traiter l'origine des veines pulmonaires, qui est une zone d'où viennent les fibrillations auriculaires, une des arythmies très fréquentes, l'arythmie la plus fréquente chez l'homme. D'autres outils ont été développés avec ici, par exemple, ce cathéter circulaire muni de 10 électrodes irriguées qui a pour but de créer des lésions de radiofréquence à l'entrée des veines pulmonaires. On s'en sert également ailleurs dans l'oreillette lorsqu'on a affaire à des fibrillations persistantes qui nécessitent des interventions plus extensives que la simple isolation des veines pulmonaires que l'on utilise pour les fibrillations paroxystiques. Et ici, vous avez, c'est chez un animal bien sûr, on ne voit pas, c'est chez nos patients parce qu'ils survivent à l'intervention, vous avez des lésions de radiofréquence qui sont donc le remplacement des cellules musculaires par une nécrose et elles sont entourées d'une zone hémorragique qu'on voit assez bien ici. Et voilà donc à quoi ressemblent les traitements qu'on peut proposer à nos patients. Mais ce qui est intéressant au-delà de l'aspect thérapeutique, c'est d'arriver à mieux comprendre les relations entre structure et fonction, et donc par exemple entre une cicatrice et sa capacité ou non à favoriser l'apparition d'arythmie cardiaque. Et il y a là des enjeux considérables dont Nicolas a parlé, et notamment la capacité que l'on aurait à prédire les arythmies. C'est un aspect majeur de notre activité et de notre recherche parce qu'à l'heure actuelle, on est très mauvais sur ce point de vue et notre capacité à dépister les gens qui sont à risque de mort subite est très mauvaise. Et nous pensons que la capacité que l'on a à intégrer une multitude d'informations directement dérivées du patient doivent permettre d'arriver à mieux cerner les gens qui sont à risque de développer les arythmies graves et à les prévenir. L'autre aspect de cette capacité de prédiction que l'on peut améliorer sans doute grâce aux relations structure-fonction, c'est l'aspect de guidage des thérapies vers les zones d'intérêt et donc de procédures plus efficaces. Alors la relation structure-fonction dans mon esprit et dans le cadre de cet exposé, c'est en fait relation qu'il y a entre, par exemple ici, du muscle survivant au sein de la fibrose qui est en bleu, qui va se traduire par des activités électriques très anormales qui surviennent après le QRS et qui sont le reflet des troubles conductifs qu'on peut observer dans une cicatrice où la fibrose va considérablement ralentir la propagation de l'influx électrique et permettre ces phénomènes de réentrée qu'on a vus précédemment. Il y a un certain nombre de signaux non électriques qui peuvent contribuer à une meilleure compréhension de ce substrat qui est potentiellement arythmogène. On peut citer l'échographie qui est assez peu utilisée dans ce domaine, mais il y a quelques publications et donc dans des cas un peu privilégiés, et c'est malheureusement loin d'être systématiquement le cas, un cathéter d'échographie intracardiaque peut permettre de voir une zone cicatricielle avec une définition qui est scalée, le péricarde ici, et donc de mettre à profit ce renseignement pour aller diriger les cathéters sur la zone d'intérêt ainsi décrite et identifier des activités électriques anormales. On peut aussi, comme c'est montré ici, faire une cartographie de l'ensemble de la cavité, ce qui suppose de déplacer le cathéter point par point sur toute la surface. Donc, si on veut une bonne densité, c'est 200 à 400 points dans une chambre. Ça prend du temps. On va se rendre compte à ce moment-là qu'il y a des zones ici en rouge qui sont anormales parce que leur voltage est inférieur à ce que l'on attend et sur lesquelles on va trouver ces potentiels anormaux et retardés qui font le lit des arythmies que l'on cherche à traiter. Il est bien évident que si on a ces notions d'imagerie pour nous orienter, on va gagner du temps Et c'est important. L'IRM a beaucoup plus été utilisée que l'échographie dans ce domaine. Elle permet, comme ici dans ce groupe espagnol, barcelonais, de décrire la cicatrice d'un infarctus à différents niveaux de profondeur en partant de l'endocarde, donc la surface à l'intérieur de la cavité cardiaque qui est en contact avec le sang, et donc à 10% de cette épaisseur musculaire jusqu'à la partie épicardique, donc l'autre côté de la paroi ventriculaire qui fait à peu près 1 cm. Et on peut ainsi représenter avec un codage couleur la présence de cicatrices dans l'épaisseur de la paroi musculaire et mettre à profit cette information pour en déduire par où pourrait se propager une activité électrique qui serait critique à l'arythmie cardiaque que l'on cherche à traiter. Et on a ici donc un ISM, channel en anglais, qui va pouvoir être emprunté par l'activité électrique. Et effectivement, chez ce patient, nos amis barcelonais montrent que l'activation électrique se propage ainsi, telle que prédite par l'imagerie de la fibrose chez ce patient. On peut également y associer un aspect fonctionnel, et ça c'est très intéressant, avec une analyse en émission de positrons qui donne un aspect métabolique, c'est-à-dire qu'on va voir ici les zones qui ont une activité métabolique et qui donc consomment du glucose par rapport à certaines zones qui n'en consomment pas, et pour cause on est dans la cicatrice de l'infarctus et c'est donc inactif métaboliquement. Et ça aussi, ça peut être mis à profit sans doute pour guider l'intervention vers la zone pathologique, et c'est ce qu'a démontré ici l'équipe de Johns Hopkins avec ici donc cette zone qui continue à être active métaboliquement et qui correspond à la zone par où passait l'impulsion électrique. Alors les collaborations développées dans le cadre de notre institut avec les gens de l'INRIA, avec des mathématiciens, avec des radiologues dont Hubert Cochet qui est ici nous ont permis de développer une plateforme multimodale d'imagerie dont le but est de en fait utiliser toutes les informations qui peuvent sembler pertinentes pour améliorer la prise en charge de notre patient et donc on peut prendre des images IRM ou scanner, avoir des informations électriques qui sont recueillis de manière non invasive à la surface du thorax avec cette veste à 250 électrodes. Cumuler tout ça sur un logiciel qui va ensuite être exporté vers une plateforme de localisation 3D des cathéters, ce qui permet de voir après un recalage précis, et ça c'est très important, nos cathéters localisés dans l'espace avec l'information zone pathologique qui est ici codée dans cette couleur moutarde, et puis, par exemple, des reliefs anatomiques importants ou des structures anatomiques importantes telles que l'artère coronaire et ses branches ici. Donc ça, c'est la coronaire droite, c'est un ventricule droit. Mais on peut aussi segmenter d'autres éléments anatomiques importants tels que les veines coronaires en bleu ou le nerf phrénique ici en vert, qu'il faudra bien sûr éviter quand on délivre les courants de radiofréquence. On cherche à éviter ces structures vulnérables. Et on peut y rajouter donc l'information électrique recueillie à la surface du thorax de manière non invasive, et on voit ici que cette zone rouge, c'est le point d'émergence de l'arythmie du patient qui se situe dans cette zone verte hachée qui est le substrat anormal. Donc beaucoup d'informations disponibles avant l'intervention qui vont nous permettre de réaliser celle-ci au mieux. Tout ça est une extrapolation d'un travail de longue haleine de l'INRIA avec initialement la plateforme CardioVis 3D, puis MedInRIA, et pour laquelle donc Maxime Sermezan et Jatine Reland d'ailleurs ont beaucoup œuvré. Et donc cette plateforme musique est une des fonctionnalités de MedInRIA maintenant, et ça permet par exemple de faire de la fusion entre IRM et scanner. Et ça, c'est intéressant parce qu'on a ici des zones qui, décrites par l'IRM, sont des cicatrices et que l'on bénéficie encore de la précision inframillimétrique du scanner. Donc on cumule les avantages des deux techniques dans cette approche. Et on peut encore une fois, avec donc ici un cathéter un peu particulier qu'on a mis au point, qui est muni de 36 électrodes, faire des cartographies de haute résolution sur des structures qui sont décrites au préalable par l'imagerie comme étant anormales, sièges de cicatrices et donc zones d'intérêt pour l'arythmie. Vous voyez ici la segmentation de l'épicarde, de l'endocarde. On a donc accès à l'épaisseur ventriculaire et puis à la cicatrice de l'infarctus. Et on va pouvoir ainsi localiser ces potentiels anormaux que l'on trouve dans les cicatrices en fonction de l'imagerie. Le scanner est d'ailleurs un instrument qui a été sous-utilisé. Il y a un certain nombre de raisons à ça, mais encore une fois, sa résolution inframillimétrique, on peut descendre à 300 ou 400 microns de résolution avec le scanner, est vraiment très intéressante. Et donc, quand on regarde les segmentations en fonction de l'épaisseur du myocarde, on peut relativement bien décrire une cicatrice d'infarctus du myocarde et voir que cela correspond assez bien avec les activités électriques anormales. Donc on a ici un overlap important entre les zones de bas voltage électrique et les zones d'affinement de la paroi musculaire qui sont dues à la cicatrice de l'infarctus. Ce qui est intéressant également, c'est de constater par exemple que les potentiels anormaux les plus retardés, c'est-à-dire les conductions les plus ralenties, s'observent systématiquement dans les zones les plus amincies de la cicatrice. Et donc on a là bien une corrélation entre la structure et la fonction qui est intéressante et qu'on met à profit dans les interventions. Un autre aspect de l'intérêt du scanner, c'est la possibilité de décrire un infiltrat fibrograisseux parce que la densité de pixels de la graisse et de la fibrose est nettement inférieure à celle des myocytes normaux. Et donc on peut ainsi segmenter toute cette zone blanche qui est une zone d'hypodensité radiologique. On voit que cela cadre très bien avec la carte en voltage de l'épicarde de ce patient qui a une dysplasie arythmogène du ventricule droit. Les zones rouges et vertes sont les zones bas voltées. Vous voyez que il y a un très bon match entre les deux. Correspond également à ces zones d'activité très fragmentées, très anormales, qui font le lit des arythmies. L'autre intérêt, c'est que ici, par exemple, on a cette petite branche de l'artère coronaire droite qui est malencontreusement située sur une zone que l'on cherche à traiter parce que cette zone est le siège d'une activation très retardée, très pathologique. On ne peut pas tirer sur l'artère coronaire quand on a le cathéter en face épicardique. Donc, fort de cette connaissance que nous apporte l'imagerie intégrée à la procédure, on repart en endocardique avec notre cathéter d'ablation, on surveille avec le cathéter épicardique ce qui se passe, et comme on sait qu'il y a une artère coronaire qui refroidit la zone qu'on veut traiter, on augmente la puissance jusqu'à 40 watts, ce qu'on fait rarement dans le ventricule droit, pour finir par voir disparaître cette activité anormale et donc avoir un certain degré de confiance dans le traitement que l'on a fait. Donc ce scanner, on l'a mis à profit pour décrire l'infiltrat fibrograisseux des dysplasies arythmogènes du ventricule droit. Et c'est assez intéressant parce que les outils développés par l'INRIA et toute cette plateforme, finalement, nous permet de faire des atlas. Je ne sais pas si le terme est approprié parce qu'on a vraiment peu de patients là. 36, c'est quand même pas un grand atlas. Mais enfin, on arrive en tout cas, et c'est ce qui est intéressant, à cumuler une série de patients sur un modèle. Et à partir de ça, on peut dériver des cartes de statistiques qui nous disent que ici, en région latéro-basale du ventricule droit, on a une forte probabilité de trouver cet infiltrat fibrograisseux. Et on peut comparer ça à des patients qui n'ont pas cette maladie et voir que c'est absolument pas le cas chez eux. Ici, la densité de pixels au scanner est absolument normale. Donc c'est assez intéressant et on a le souhait comme ça de décrire d'autres pathologies que la dysplasie arythmogène du ventricule droit, les cicatrices d'infarctus par exemple, ou les séquelles de myocardite. C'est d'ailleurs le cas de ce patient qui a une cartographie donc endocardique. Vous voyez, tous les points représentent les zones où le cathéter s'est baladé et où on a enregistré une activité électrique. Et chez ce patient, on trouve, côté endocardique, aucune anomalie de voltage, tout paraît normal, mais on sait, grâce à l'imagerie, qu'on a des zones pathologiques où il y a de la fibrose, et donc on sait qu'on va devoir aller en épicardique. Je n'ai pas décrit l'approche, mais ça consiste à passer sous l'appendice xiphoïde avec une aiguille pour rentrer dans le péricarde et pouvoir explorer avec nos cathéters l'aspect épicardique du muscle ventriculaire. Et donc sur ce côté-là du muscle ventriculaire, on s'attend à trouver des anomalies, elles sont effectivement au rendez-vous. Ce sont ces potentiels très retardés qui, encore une fois, témoignent d'une activité très ralentie. L'autre élément intéressant, c'est qu'on a le nerf phrénique gauche qui passe juste en regard de cette cicatrice. Et donc, on sait qu'on va devoir prendre des mesures pour l'écarter. Alors, on injecte de l'eau et de l'air dans le péricarde pour l'écarter de la partie myocardique et pouvoir délivrer le courant de radiofréquence qui va traiter la zone malade sans risquer de léser le nerf. Ça, c'est une cartographie qu'on obtient en cours de tachycardie ventriculaire. On a cartographié des activités électriques très intéressantes ici, à l'endroit où se trouve le cathéter d'ablation. Mais on est un peu inquiet parce qu'il paraît être au contact d'une branche de la circonflexe. Et donc, comme on a assez confiance dans ce type d'imagerie et dans notre capacité à bien recaler l'imagerie avec la réalité de la localisation du cathéter, on fait une coronarographie. Et effectivement, le contact est là. Et donc, on ne peut pas délivrer le courant de radiofréquence sur cette zone sans faire courir de gros risques de sténose coronaire et d'infarctus. Ça, c'est un autre exemple où on a cartographié avec la veste avant l'intervention et où on voit qu'on a une activation électrique qui semble se propager très bien entre les deux zones de cicatrices produites par l'imagerie préopératoire. Et donc, on a ici un isme où on voit la conduction ralentir de manière vraiment très importante entre ces deux zones cicatricielles. C'est quelque chose qui a ensuite été confirmé par une cartographie de contact où on avait effectivement le circuit décrit par la veste avant l'intervention. Le scanner, encore une fois, chez ce patient qui a une cardiopathie ischémique, on peut en fait coder en couleur les différents niveaux d'épaisseur de la cicatrice et du myocarde normal d'ailleurs, voir nos cathéters par rapport à cette reconstruction en trois dimensions de la cavité qui nous intéresse, avec en plus l'information artère coronaire à éviter. Et on voit que, avec différents niveaux de codage d'épaisseur myocardique, on a différents aspects de l'infarctus. 2,5 mm, ça commence à faire une paroi très très fine pour un ventricule qui normalement fait 10 mm. Et on peut confronter ça à la propagation de l'activité électrique dans la cicatrice. Et on voit ici qu'en cours de tachycardie ventriculaire, l'activité électrique aborde la cicatrice par son versant septal, ça c'est l'interventriculaire antérieur, rentre, et on peut suivre comme ça l'activité, je reviens en arrière, vous voyez que l'activité électrique est de plus en plus tardive dans la cicatrice ici, et il y a une autre activation qui se fait dans la partie supérieure de la cicatrice, également de plus en plus tardive, et vous voyez que ça prend en fait tout le cycle entre deux événements électriques consécutifs. Donc c'est vraiment une zone où la conduction est très lente. Et ce qui est intéressant, c'est que c'était prédit par l'imagerie. On avait exactement les deux ismes que l'on observe sur l'activité électrique qui étaient déjà visibles avec l'imagerie préopératoire. Et donc on s'est servi de toutes ces informations pour délivrer un tir ici qui a permis de terminer l'arythmie ventriculaire de ce patient. On s'attache à faire disparaître ces potentiels anormaux. C'est une observation un peu privilégiée parce qu'on a ce cathéter multipolaire qui est sur la face épicardique à l'extérieur du cœur. Le cathéter qui délivre le courant de radiofréquence est à l'intérieur. Et donc, pendant le tir, on observe la disparition d'un battement sur l'autre. On sait qu'on a eu une efficacité transmurale sur toute l'épaisseur de la paroi musculaire. Un autre patient qui a cette fois-ci un infarctus inférieur, qui a été segmenté à l'IRM par Huber et qui va être étudié avec le système CardioInsight de Vest thoracique, qui nous montre le point de sortie de la tachycardie ventriculaire ici, en pleine cicatrice d'infarctus. On sait déjà ce qu'on doit traiter avant de commencer. On s'est posé la question de savoir si tous ces renseignements avaient un impact en termes d'efficacité de traitement chez les patients, parce qu'in fine, c'est quand même ça qui compte. Et pour vous dire la vérité, nous, on est sensible aussi à l'aspect confort de travail. Le fait de connaître la localisation de toutes ces structures anatomiques, c'est irremplaçable par rapport à une simple image de silhouette cardiaque en rayon X. On comprend que ce soit important. Mais il semble en plus, et alors malheureusement c'est une étude rétrospective et on doit conduire une analyse prospective, mais il semble qu'on ait effectivement un taux de succès plus élevé lorsqu'on utilise l'imagerie par rapport à des situations où on ne l'utiliserait pas. Un mot de la fibrillation auriculaire pour laquelle on utilise également cette veste, et alors là quotidiennement à Bordeaux, tous les jours on a une intervention avec cette veste pour des fibrillations persistantes. Et on peut ainsi, grâce à la collaboration avec le groupe des mathématiciens de l'Institut, faire une cartographie de phase sur les données fournies par la veste et avoir la possibilité de voir ces phénomènes ici de rotor, cette activité circulaire qui va constituer une cible privilégiée pour l'intervention. Et on va, parce que ces rotors sont des phénomènes qui, dans le temps, ne sont pas durables, qui s'éteignent spontanément, on va pouvoir dresser une carte cumulative, également qui décrit la zone où il y a le plus fréquemment des rotors qui sont observés. Et ça va être la première zone traitée par les courants de radiofréquence que je vous ai décrit tout à l'heure. Et en faisant ça, on s'est rendu compte qu'on pouvait diminuer de moitié la quantité de lésions nécessaires à arrêter ces fibrillations auriculaires. Donc là, il y a un bénéfice pour le patient qui est manifeste nous permet donc de cibler ces zones préférentielles. C'est assez nouveau pour nous parce que jusqu'à maintenant, on était complètement aveugle et les traitements qu'on faisait étaient sans doute beaucoup moins appropriés qu'ils ne le sont avec cette méthode et avec son intégration dans les systèmes de localisation 3D. Et puis c'est intéressant pour à nouveau les relations structure-fonction. Quand on regarde les zones où ces rotors sont observés, ce sont les filaments sur cette carte de l'oreiller de gauche. Ce sont les veines pulmonaires droites, ici les veines pulmonaires gauches, la face postérieure de l'oreiller de gauche, la face septale de l'oreiller de gauche. On voit que il y a sans doute une relation entre la fibrose telle que décrite à l'IRM et les trajets de ces rotors. Et donc, c'est un phénomène intéressant que l'on étudie actuellement. Il semble être en périphérie des zones de fibrose, à la jonction tissu sain, tissu malade. Et ça peut peut-être donner lieu à des conséquences thérapeutiques. Il reste beaucoup de choses à améliorer, même si on est déjà très heureux de ce que l'on a. Tout ça étant assez récent, mais on a par exemple des problèmes de résolution spatiale, notamment avec l'IRM, et si on pouvait décrire les cicatrices d'infarctus aussi bien que c'est montré là, avec les fibres survivantes au milieu de la fibrose, et là on comprend très bien le trajet très chaotique de l'activation électrique, ce serait bien sûr fantastique, on aurait des traitements qui seraient encore plus efficace et focalisée. On compte pour ça sur des cathéters nouveaux. Celui-ci va arriver avant la fin de l'année, j'espère. Vous voyez que les électrodes sont très fines, elles font 1 mm. L'espace interélectrode est très réduit, 1 mm également. Et là, on a une cartographie en 10-15 minutes qui compte 1200 points, donc une résolution de cartographie qui est très importante. Et ces outils nous permettent de voir des structures de conduction très fines. Ça, ce sont les branches du faisceau de His et même le réseau de Purkinje ici. Donc des progrès côté électrique, des progrès sur l'interaction électricité IRM également avec l'IRM interventionnel. On a le rêve de pouvoir intervenir sous IRM, ça a un certain nombre d'avantages et des contraintes terribles à surmonter. Mais la possibilité de voir en temps réel la lésion se former, ce serait pour nous quelque chose de très important. Déjà, arriver à localiser le cathéter, ce n'est pas très simple. Ça, c'est une expérience qui a été faite en Allemagne. Il y a une toute petite série de patients pour une arythmie assez simple à traiter, mais ça prend des proportions vraiment considérables avec l'IRM. Toujours est-il que ça offre la possibilité de guider l'imagerie sur le cathéter. On appelle ça active tracking. Et ça, c'est intéressant parce qu'encore une fois, ça nous donne accès à la lésion en direct. Et ce serait absolument fantastique. Après, on sait bien que quand on a des IRM à haute puissance, donc ça, c'est 9,4 Tesla, on atteint une résolution qui est extraordinaire sur cœur arrêté, parce que le mouvement, c'est quand même l'ennemi de l'IRM. Donc on dispose de cette machine à l'IHU. Il est bien évident qu'avec 30 cm de diamètre utile, on ne fait pas rentrer un patient, mais des cœurs isolés, par exemple. Et encore une fois, donc pour l'instant, on est à 200 microns de résolution isotropique. Ça doit descendre jusqu'à 25 microns, 50 microns. Donc là aussi, il y a des possibilités d'amélioration, certainement. Et puis, Nicolas, tu as abordé l'orientation des fibres. Ça, c'est quelque chose qui est crucial en matière d'électrophysiologie, qui doit avoir une importance majeure dans le cadre des arythmies cardiaques. Et on espère pouvoir l'intégrer rapidement dans notre travail. Tu as parlé également de la performance myocardique, qui pour la resynchronisation des insuffisances cardiaques est un élément fantastique. Et la capacité qu'a l'ordinateur de pouvoir tester 1000 ou 2000 sites de stimulation pendant la nuit avant l'implantation d'un patient et de nous dire c'est là qu'il faut mettre la sonde parce que c'est là que ça marche le mieux, ça c'est unique, c'est quelque chose qu'on ne fera jamais en clinique. Et donc là, il y a des possibilités tout à fait importantes de développement. Et enfin, peut-être qu'un jour, nous pourrons faire tout ça de l'extérieur, c'est-à-dire toute la partie qui existe déjà actuellement de description des anomalies cardiaques et même de description de l'activité électrique avec des systèmes de cartographie non invasifs sur le thorax, pourrait être couplé à de la thérapie, par exemple par ultrason externe, guidée en temps réel sous IRM. Ce n'est pas complètement utopique, ça se fait déjà sur d'autres organes. Ils sont immobiles, le cœur est plus difficile à traiter du fait de ses mouvements. Il y a d'autres sources d'énergie qui peuvent être utilisées, telles que les gamma knife, etc. Et donc, on aura peut-être, d'ici une dizaine d'années, la possibilité de tout faire de manière non invasive. Je vais m'arrêter là parce que ça, vous l'avez déjà vu.